loi d'orientation de 2005, d'une communication annuelle au HCE, d'une évaluation de ces expérimentations, a été pour nous une opportunité. Le contexte avait changé et la demande de la DGESCO s'était faite plus pressante en termes d'évaluation étayée. La mission qui a été confiée à l'INRP de suivi de ces expérimentations avait incité les académies éloignées de Lyon à rechercher des partenariats de proximité. Et le CREN, qui avait créé en plus depuis plusieurs années des relations fortes avec l'INRP d'un côté et la MIVIB de l'autre, a, je crois, saisi cette opportunité de se positionner également en complémentarité de l'INRP sur cet axe de recherche. Donc, en 2007, donc vous voyez la loi d'orientation, l'article 34-2005, en 2007, les contacts ont été pris et les choses se sont cristallisées. On a beaucoup parlé de cristallisation. Nous, on a senti qu'à ce moment-là, se cristallisait un partenariat fort et le démarrage s'est fait en novembre 2007. Donc, quatre thématiques ont été retenues. La rénovation de l'enseignement des sciences en lycée, le raccourcissement des parcours de formation dans le cadre des bacs pro 3 ans, les structures expérimentales, nous avons vu, François nous a parlé de Vitruve, nous aussi, dans notre académie, nous avons des structures expérimentales, et puis la préparation de la philosophie en classe de première. Ces thèmes étaient des questions que nous nous posions et se trouvaient être des préoccupations des chercheurs. Donc pour mener à bien ce travail, je vais rentrer dans la concrétude des choses, le CREN a mobilisé pour chaque étude un enseignant-chercheur, c'est-à-dire 10% d'un équivalent temps plein, et un étudiant de master 2 qui faisait de cette étude son mémoire de recherche. La délégation dans laquelle la MIVIP s'intègre au rectorat a financé l'ensemble des déplacements et des retranscriptions d'entretiens à hauteur de 1 500 euros. La MIVIP a proposé d'assurer le suivi des équipes d'établissement dans un premier travail de formalisation accompagné d'HSE pour les équipes impliquées. Donc nous, notre rôle, ça a été d'assurer la coordination entre le CREN, les inspecteurs, les établissements et la DGESCO au niveau national intéressée par ces questions. L'INRP a proposé de participer en abondant le contingent d'HSE attribué aux enseignants associés. Mais cela n'a pas donné lieu à un complément supplémentaire. Localement, nous avions suffisamment d'HSE. Donc, après accord du recteur, donc bien entendu, il a fallu proposer ce protocole au recteur, en débattre. Donc, après accord sur les quatre thématiques, chaque projet a été présenté aux inspecteurs concernés et débattu avec eux dans une petite réunion dans laquelle étaient présents les inspecteurs et les chercheurs. Deux rencontres entre la MIVIP et le CREN ont eu lieu en décembre 2007, puis en mai 2008. Ces rencontres ont permis de suivre et de réajuster les projets quand cela a été nécessaire et de stabiliser cette coopération nouvelle. Les rapports d'études définitifs devaient être disponibles en septembre 2008, et je lis ce que nous avions écrit à l'époque, parce que nous avons conservé toutes les traces, bien entendu, sous des formes différenciées en fonction des thèmes et de leur utilisation, ce qui a été en partie le cas. Voilà pour la genèse. Maintenant, quel est l'objet concret de cette collaboration? La commande académique était très claire et assez peu négociable. Nous avions besoin d'un retour de la recherche à court terme, au bout d'une année scolaire si possible. Pour pouvoir étayer un premier avis sur les expérimentations conduites, nous pouvions difficilement attendre 3 à 4 années les résultats d'une recherche. Et ça, ça a été la condition qui a été fixée par le recteur. Si ça n'est pas 1 an, ça n'est rien. Les chercheurs d'Ukraine ont compris cette exigence qui n'était pas simple pour eux. La temporalité de la recherche n'est pas la temporalité de l'action. Et ils l'ont accepté, ils ont relevé ce défi. De leur côté, ils ont mis un impératif. Eux, ils souhaitaient que ces recherches puissent s'intégrer aux recherches des doctorants qui allaient les conduire. On s'est alors mis d'accord sur la réalisation non pas de recherches, mais de mini-recherches ou d'études permettant d'apporter un regard complémentaire au regard institutionnel. Les études développées le seraient donc sur une période courte, 1 année chacune, 2 ou 3 maximum pour une étude plus longitudinale sur les bacs pro, 3 ans. L'administration a été compréhensive. Elle l'est parfois. Cela n'a pas été si simple de cerner cet objet, cette étude. Cela n'allait pas de soi. Une recherche universitaire courte, satisfaisant à la fois à la demande institutionnelle actuelle d'une recherche plus opérationnelle et aux nécessités des chercheurs d'intégrer donc ces études dans leur propre cursus universitaire. Ça, c'est un écart difficile. Un rapport d'études de type universitaire s'appuie sur des références théoriques. Il est anonymé pour être intégré à une thèse ou être présenté à un colloque. Dans le cas qui nous intéresse ici, celui d'expérimentation, il va rendre compte des avancées, mais aussi des tensions rencontrées sur le terrain. Dans une telle étude, le souci d'analyse prime sur celui de la valorisation, même si les choses sont difficiles à dire. Il se peut donc que pour une communication dans l'institution, il y ait nécessité d'une réécriture, que Martine et moi, nous nous étions engagés à conduire pour en extraire les éléments utiles au pilotage des expérimentations. Une petite parenthèse, pour l'instant, cette étape n'a pas été totalement accomplie. On verra que cette communication est loin d'être simple, surtout dans sa propre académie, où il est aisé de reconnaître les établissements, même anonymés, et où il n'est pas toujours facile de se dire les choses entre nous, quand elles fonctionnent moins bien qu'on l'aurait espéré, et qu'elles ne vont pas dans le sens souhaité a priori. Donc la première communication grand public de ces études a donc lieu aujourd'hui, au cours de ce séminaire, et je peux vous dire que nous en sommes ravis. Troisième point, l'intérêt de cette collaboration. Nous reviendrons sûrement en fin de matinée, après les ateliers, sur cet apport. Mais dès à présent, et après 1 an et demi de collaboration, les apports de la recherche se confirment. Le regard extérieur et distancié des chercheurs peut permettre d'aller vers une compréhension à la fois plus fine et plus globale du réel, de l'expérimentation et de l'action qui se déroule. Le regard de la recherche est précieux pour comprendre les processus en jeu dans les expérimentations, les leviers comme les freins à tous les niveaux de l'institution, de l'établissement au ministère. Les leviers et les freins sont partout. Donc ce regard apporte une complémentarité fructueuse au conseil et aux préconisations des inspecteurs, d'une part, et ainsi qu'aux écrits des équipes élaborés dans l'action et accompagnés par la MIVIP. La question de l'enjeu évaluatif, que je croyais lever par la position distanciée des chercheurs, n'est malgré tout jamais totalement acquise par les équipes. On l'avait posé comme un a priori, que ces études, que le regard porté par les chercheurs était un regard qui n'était pas évaluatif, ça n'est pas si simple. Donc voilà, nous vous proposons ces quatre ateliers relatifs aux quatre thèmes expérimentaux qui ont donc donné lieu à ces quatre études. Trois seront présentés par les chercheurs eux-mêmes qui ont conduit ces études. Le quatrième atelier vous sera présenté par Martine et moi, le jeune doctorant qui a conduit l'étude étant aujourd'hui à La Réunion. Il sera donc plus centré sur le processus d'expérimentation que sur le thème même de l'expérimentation, à savoir la philosophie en classe de première. Voilà, donc maintenant, nous allons vous proposer des modalités de restitution des ateliers.
Vous savez par l'expérience que quand on a des ateliers, les restituer, c'est toujours, alors je vais dire comme ça, un calvaire. Qu'on n'est pas persuadé toujours de l'intérêt des ateliers, et donc on va le faire de façon différente. Alors je pensais trouver, voilà, ça. On va essayer de décaler un peu. Donc on va faire le deuil, par exemple, du fait que on espérait connaître ce qui s'est dit dans l'atelier et que finalement on n'arrive pas à restituer. Donc ça, on va dire, le travail d'atelier, c'est un travail de l'atelier. Voilà. Et donc ça ne concerne que l'atelier. Donc vous allez faire un choix et donc vous ferez le deuil tout de suite de ne pas savoir ce qui s'est fait ailleurs. Mais après tout, la vie c'est comme ça. La vie c'est fait de choix. Bon. Mais en même temps... on est dans un continuum du travail, et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce qui a été dit en atelier. Donc je voudrais, avec Christine, on l'a pensé que c'était intéressant, de solliciter deux personnes par atelier et les approcher, les enrôler, les mettre en situation de rôle, sur deux rôles différents. Le premier rôle, c'est un rôle véritablement qui fait appel à la subjectivité totale. Et donc créatrice, là où justement on a des fantasmes d'évaluation objectivée, objective, nécessaire, obligatoire, fantasmée. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le phénomène humain en évaluation est toujours sous-estimé. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait grossir en instrumentation de l'évaluation et que manifestement la décision se faisait dans un couloir, donc hein. Donc vous comprenez qu'il faut nous-mêmes travailler à intégrer la subjectivité, ces dimensions-là, dans nos travaux. Bon, et puis l'éducation, c'est aussi ça. C'est aussi de voir comment une personne, mais parce qu'elle va parler d'elle-même, encode les informations qui ont été travaillées dans l'atelier, et donc ce qu'elle va dire va sans doute résonner auprès du grand groupe. C'est voir que finalement c'est une évaluation à chaud. Hein. Quand on fait de la formation, l'enquête de satisfaction, c'est le premier niveau d'évaluation, c'est l'enquête à chaud, et c'est cela qui va être fait. Et donc, puisque le rôle est identifié, il peut autoriser, et le sens latin d'autoriser, c'est d'augmenter. Hein. Augeo en latin, c'est j'augmente ces possibilités, je suis couvert par cela. Et donc, il y a quatre ateliers. Donc, les répartitions, Christine, les ateliers sont répartis déjà ? Oui. Et donc, les rôles sont donnés ou
pas encore ?
Donc, je termine. Et donc, ça sera le premier rôle qui est tout à fait intéressant, encore une fois, avec une créativité demandée. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez le faire sous forme d'un dessin, d'une poésie, une chanson, enfin, comme vous voulez, une danse. Mais il faut, Romuald, de signaler la dimension pragmatique et très créative de nos amis anglo-saxons. Eh bien, je ne veux pas dire que ce sont des modèles, mais en France, ce n'est pas parce que nous sommes français que nous sommes universels en même temps. Bon, voilà. Même si le maître étalon est au pavillon de Breteuil. Hein, bon, voilà. Bon. Alors, le deuxième rôle, c'est le rôle de quelqu'un qui va se mettre en situation d'auditer, d'écouter, d'analyser ce qui est dit ou pas dit. Et là, c'est un travail là aussi d'amis critiques du groupe, pour le coup, qui serait de décoder des questions qui restent encore sans réponse. C'est-à-dire que l'atelier est peut-être une modalité de répondre à quelque chose, et bien quelles sont encore les questions sans réponse? Et ce sont des messages que l'auditeur des questions sans réponse va directement retranscrire sur un papier, et ce sont ces messages-là qui seront pris en charge par la table ronde en fin de journée. Voilà. Donc il y a deux rôles, le réacteur subjectif et l'auditeur des questions sans réponse.